Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Nous allons lire deux courts textes bibliques qui vont un peu lancer la prédication dans laquelle nous lirons beaucoup de textes bibliques. Cela se trouve dans la première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 1, les versets 3 et 4. Jean parle ici, c'est un apôtre qui a vécu avec Jésus-Christ. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Deuxième passage, 1 Jean 5, 13. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voilà, alors que nous allons nous plonger dans la parole de Dieu, eh bien, nous implorons vraiment l'œuvre du Saint-Esprit qui l'a inspiré pour que l'on puisse être aujourd'hui particulièrement marqué par cette parole. Ce matin, on arrive à la dernière prédication sur la série de 1 Jean et nous allons faire un exercice un peu particulier. Maintenant que nous sommes éclairés sur tous ces textes, nous avons tous vu, depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, et nous allons lire cette lettre comme si nous l'avions reçue de l'apôtre Jean, comme s'il était arrivé pour l'Église. Afin de bien saisir de quoi nous parlons, je vais vous dire chaque fois où nous en sommes dans la structure et faire une petite introduction chaque fois pour chaque partie. Et je vous encourage d'avoir sous vos yeux votre Bible, évidemment, et peut-être de l'autre œil le document qui vous a été donné, qui permet d'avoir un résumé de cette lettre en une seule vue. Voilà, je vais lire ce texte dans la transcription dynamique du Nouveau Testament. C'est un texte qui prend en compte une dizaine de versions bibliques pour que l'on soit proche du texte, qu'on ait les nuances de l'original. C'est un texte avec les mots d'aujourd'hui qui aide à la compréhension et cela permet, je l'espère, d'être comme face à une lettre qu'on lit pour la première fois, mais avec la compréhension que nous avons déjà eue par le passé, par toutes les prédications que nous avons eues. Ça va? Vous êtes prêts? Pour ce temps particulier, on va vraiment demander que cette parole touche nos cœurs. Alors, Jean commence par une introduction, les versets 1 à 4 du chapitre 1. Et Jean, dans tout son écrit, c'est important à comprendre ça, ne cherche pas à apporter une nouveauté. En fait, Jean cherche à appliquer ce qu'il a dit aussi dans l'Évangile selon Jean, et que l'on trouve par exemple dans Genèse 1 ou dans Proverbe 8, particulièrement dans l'Église. C'est ça le but de Jean, de l'épître de Jean. Jean est un apôtre, il a vu, il a touché, il a parlé avec Jésus lui-même. Et pour Jean, le mot « Dieu » se réfère autant au Père que au Fils, qui est venu nous apporter la vie dans le monde et la communion avec lui, qui est la meilleure chose. Vous êtes prêts? On va lire cette lettre que nous avons reçue. Nous vous annonçons le message de celui qui est la parole de vie. Il existait depuis les origines. Or, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé, nous l'avons touché de nos mains. Oui, celui qui a la vie, est apparu. La vie éternelle qui était de tout temps auprès de Dieu a été rendue visible à nos yeux. Nous en parlons à titre de témoin et nous vous l'annonçons, je le répète. Ce que nous avons réellement vu et entendu, nous vous l'annonçons parce que nous aimerions que vous soyez associés avec nous dans cette communion dont nous jouissons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si je vous ai écrit ainsi, c'est pour que notre joie soit complète. Voilà l'introduction. Voilà le désir, ici. Et après cette introduction, Jean va nous parler de deux grands thèmes qu'il annonce par l'expression « voici le message ». Voici le message, et il y a deux thèmes principaux qui est « Dieu est lumière et Dieu est amour ». Dieu est lumière et Dieu est amour. Et Jean va nous en parler comme une fleur avec des pétales. Il y aura 3 pétales chaque fois en lien avec ce thème, hein, et il va le développer. Entrons justement dans cette première partie qui parle de « Dieu est lumière », qui commence au verset 5 du chapitre 1 et qui se termine au verset 10 du chapitre 3. Et là, on va commencer avec une première pétale qui s'étale du verset 5 au verset 11 du chapitre 2. Et vous pouvez suivre, hein, les différentes étapes sur votre document. Il parlera de la vie dans la lumière, de garder les commandements de Jésus-Christ en vivant à la repentance, et aborde le sujet qu'il reviendra régulièrement de l'amour fraternel. Lisons cette lettre que nous avons reçue. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous transmettons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace d'obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en menant notre vie loin de la lumière, nos paroles et nos actes constituent un mensonge. Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Si par contre, nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu est la lumière, alors nous sommes vraiment en communion les uns avec les autres, et le sang répandu pour nous par Jésus son Fils nous purifie du péché sous toutes ses formes. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché et si nous avons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis, ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Mais si nous affirmons « Nous ne sommes pas pécheurs !» Nous contredisons sa parole et nous traitons Dieu de menteur. Son message n'a pas de place dans nos cœurs. Mes chers enfants, je vous écris tout ceci afin de vous éviter de pécher. Et si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, Jésus-Christ, celui qui est sans péché. Il plaidera notre cause devant le Père. Ne fut-il pas lui-même la victime qui nous vaut la faveur de Dieu en expiant nos péchés, pas seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier? Et nous saurons que nous l'avons réellement connu si nous conformons notre vie à ses commandements. Si quelqu'un dit « Je le connais » et qu'il ne suit pas ses directives, c'est tout simplement un menteur. Il prouve que la vérité n'a pas de place en lui. Par contre, celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime Dieu de façon parfaite. C'est le signe qui nous permet de savoir que nous lui appartenons. Celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme il a vécu. Mes chers amis, en vous écrivant cela, je ne vous donne pas de nouvelles directives. Il s'agit simplement de l'ancien commandement qui vous a été transmis depuis le commencement, c'est-à-dire la parole que vous avez déjà entendue. Et pourtant, c'est un commandement nouveau. Nouveau dans le sens que l'obscurité est en train de se dissiper, que la véritable lumière commence à briller. Le Christ en a démontré la vérité dans sa propre vie et dans la nôtre. Celui qui prétend vivre dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Par contre, celui qui aime son frère reste constamment dans la lumière et il ne risque pas de tomber ou de faire tomber quelqu'un d'autre dans le péché. Mais celui qui déteste son frère est plongé dans les ténèbres. Il marche dans l'obscurité sans savoir où son chemin le conduit. L'obscurité l'a rendu aveugle. Voilà cette première pétale de cette fleur de Dieu est lumière et tous ses aspects. Jean va développer une deuxième pétale de cette fleur, hein, dans les versets 12 à 17 du chapitre 2, où il va nous parler du contraste entre les ténèbres et la lumière. Et il parle de la victoire sur le diable et nous avertit de ne pas aimer le monde. Continuons la lecture de cette lettre que nous avons reçue. Je vous écris à vous, petits enfants. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus a fait. Je vous écris à vous qui êtes à présent des pères, car vous êtes entrés en communion avec celui qui est depuis le commencement du monde. Je vous écris aussi à vous qui êtes jeunes, parce que vous avez remporté la victoire sur le diable. Oui, je vous écris à vous les enfants, parce que vous avez reconnu celui qui est votre père. Je vous ai écrit à vous, père, parce que vous avez connu et compris celui qui existe depuis le commencement. Je vous ai écrit, jeunes chrétiens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous, et ainsi vous avez vaincu le diable. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'a pas de place dans son cœur. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme livrés à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse, la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or le monde, avec tous ses attraits, est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. C'était cette deuxième pétale de cette fleur qui parlait de Dieu qui est lumière. Et Jean continue et veut vraiment nous faire comprendre cela avec d'autres aspects encore. C'est la troisième pétale qui nous parle de ce Dieu qui est lumière, où il nous met en garde contre des antichrists. Mais il sait que ses lecteurs connaissent la vérité. Et ils sont enfants de Dieu. Nous allons le voir ensemble dans cette partie suivante, à partir du verset 18 du chapitre 2. Mes enfants, nous entrons dans un temps décisif. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Mais dès à présent, beaucoup d'antichrists sont parus sous bien des formes. Cela montre bien que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous. Mais en réalité, ils n'ont jamais été des nôtres. En effet, s'ils l'avaient été, ils seraient restés parmi nous. Or, ils nous ont quittés pour qu'il apparaisse bien clairement que tous n'étaient pas réellement des nôtres. Vous, par contre, vous avez reçu le Saint-Esprit de la part de celui qui est saint. Chacun de vous a donc la connaissance voulue. C'est pourquoi je ne vous écris pas non plus comme à des gens qui ignoreraient la vérité. Parce que vous la connaissez. Vous la connaissez. Vous savez qu'aucun mensonge, aucune erreur ne peut provenir de la vérité. Où trouvons-nous donc le mensonge et l'erreur? Là où l'on nie que Jésus soit le Christ, loin de Dieu. Tout homme qui refuse de reconnaître le Père et le Fils est un antichrist. Car celui qui nie que Jésus soit le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui connaît que Jésus est le Fils de Dieu est aussi en communion avec le Père. C'est pourquoi gardez soigneusement dans vos cœurs l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous resterez aussi en communion avec le Fils, avec le Père, et vous serez au bénéfice de la promesse que Jésus lui-même vous a faite. Vous aurez la vie éternelle. Voilà ce que je tenais à vous écrire pour vous mettre en garde contre ceux qui essayent de vous égarer. Rappelez-vous que vous avez reçu du Seigneur la marque de l'Esprit qui demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que des instructeurs particuliers viennent vous instruire. Son Esprit qui vous a marqué vous enseigne tout ce dont vous avez besoin de savoir. Et il vous enseigne la vérité, jamais l'erreur. Obéissez donc à ses enseignements et demeurez en communion avec lui. Oui, mes enfants, restez unis au Seigneur pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'une joyeuse assurance et que nous n'ayons pas à nous cacher devant lui lors de son avènement. Vous savez que le Seigneur fait ce qui est juste. Reconnaissez, par conséquent, que tout homme qui accomplit ce qui est juste est un enfant de Dieu, né de lui. Voyez combien le Père nous aime. Il veut que nous soyons appelés enfants de Dieu. Plus que cela, nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous comprend pas et refuse de reconnaître qui nous sommes. Il ne l'a pas connu non plus, le Christ. Oui, mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui portent dans leur cœur cette espérance fondée sur le Christ veillent à leur pureté intérieure pour être purs comme lui. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, est la violation de cette loi. Or, vous le savez bien, Jésus n'a jamais péché, et il a paru ici-bas pour ôter le péché. Par conséquent, si quelqu'un demeure en communion avec lui, il ne peut pas pécher. Celui qui s'adonne au péché prouve par là qu'il ne l'a jamais connu ni compris. Mes enfants, ne vous laissez égarer sur ce point par personne. Est juste celui qui fait ce qui est juste. C'est-à-dire ce qui correspond à la volonté de Dieu. Tout comme le Christ lui-même est juste en accomplissant la volonté de Dieu. Celui qui s'adonne au péché est un enfant du diable. Car le diable est à l'origine du péché et il pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu est précisément venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Celui qui par la nouvelle naissance est devenu un enfant de Dieu ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui. Il est incapable de s'adonner au péché puisqu'il est né de Dieu. C'est à ce signe que les enfants de Dieu et les enfants du diable se font connaître et qu'on peut les distinguer. Celui qui ne fait pas ce qui est juste ne vient pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Voilà toute la fleur que Jean nous a donnée sur Dieu est lumière et ses conséquences dans la vie d'Église et dans nos vies. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et Jean a développé tous ces sujets qui y sont liés. Et souvenons-nous que si Dieu est lumière, nous sommes appelés à vivre dans la lumière. C'est un bon exercice d'ailleurs de s'arrêter régulièrement dans notre vie et de se poser la question. Est-ce que je vis là maintenant dans la lumière selon Dieu? On va prendre ça avec nous hein, de cette première partie de l'Épître de Jean, de se dire ben la semaine prochaine, dans une activité, je m'arrête puis je me dis est-ce que là je vis dans la lumière selon Dieu? Et si oui, eh bien, réjouissons-nous de cette communion que nous pouvons vivre avec lui. Et sinon, eh bien, repentons-nous de nos ténèbres, de notre amour du monde, et revenons à Christ, notre défenseur, notre avocat, notre rédempteur, celui qui a payé pour nos fautes, pour que nous puissions retrouver la communion avec Dieu. Ça va? Dieu est lumière. Posons-nous la question dans la semaine qui vient. Suis-je dans cette lumière? On va passer à la deuxième grande partie où l'apôtre Jean, eh bien, nous fait une deuxième fleur en nous parlant de Dieu est amour. Et de nouveau, trois pétales. La première pétale nous parle de l'amour en opposition avec la haine. Avec l'exemple de Caïn, ça nous fait penser d'ailleurs à l'étude de Proverbes. Hein, on a vu que des oppositions nous permettent parfois de mieux comprendre. Il va nous parler du véritable amour et de l'assurance que nous pouvons avoir dans l'amour de Dieu. Alors lisons la lettre que nous avons reçue. Chapitre 3, verset 11. En effet, quel est le message que vous avez entendu depuis le début? Aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn. Il agit sous l'instigation du diable puisqu'il a égorgé son frère. Et savez-vous pourquoi il l'a tué? Parce que ses actes étaient mauvais, alors que ceux de son frère étaient justes. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que maintenant nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas se trouve encore dans le royaume de la mort, car si quelqu'un a de la haine pour son frère, c'est un meurtrier. Or, vous savez que la vie éternelle ne demeure pas dans un meurtrier. Nous avons appris à connaître ce qu'est le véritable amour, par celui qui a offert sa vie pour nous. C'est pourquoi nous devons, nous aussi, engager notre vie pour le bien de nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-il dire que l'amour de Dieu est présent en lui? Mes enfants, ne nous payons pas de mots. Il ne faut pas que notre amour consiste en quelques belles paroles, s'il est véritable. Il se traduit par des actes. Cela nous permet de reconnaître que nous sommes dans la voie de la vérité et nous pourrons nous sentir rassurés dans la présence de Dieu, même si notre cœur nous fait des reproches. Rappelons-nous, si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Mes chers amis, si notre conscience ne nous reproche rien, nous sommes pleins d'assurance pour nous adresser à Dieu et il nous donne tout ce que nous lui demandons. Nous le recevons de lui parce que nous observons ses commandements et que nous agissons de manière à lui faire plaisir. Or, que nous commande-t-il? Que nous placions notre confiance en son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et comment reconnaissons-nous qu'il demeure en lui, qu'il demeure en nous, à la présence dans nos cœurs de l'Esprit qu'il nous a donné? Voici cette première pétale de cette fleur de Dieu est amour, et des conséquences que cela a dans nos vies. Paul continue, deuxième pétale, où il va nous parler de ce Dieu qui est amour en parlant des faux prophètes, comment il faut les tester. Et comment l'amour chasse la peur. Continuons au chapitre 4, verset 1. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car parmi ceux qui se sont répandus à travers le monde, il y a bien des prophètes de mensonges. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît en Jésus le Christ venu en chair et en os dans ce monde vient de Dieu. Tout esprit, par contre, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est à l'œuvre dans le monde. Vous, mes chers enfants, vous appartenez à Dieu. Et vous avez la victoire sur ces esprits-là, par celui qui vit en vous et qui agit au milieu de vous, qui est plus puissant que le prince de ce monde qui les inspire. Eux, ils parlent à la manière du monde, parce qu'ils font partie du monde. Aussi, le monde les écoute-t-il? Nous, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'appartient pas à Dieu n'a aucun intérêt pour ce que nous disons. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de vérité de l'esprit de l'erreur. Mais bien, chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui rayonne l'amour est passé par la nouvelle naissance. Il est enfant de Dieu, il vit dans une intime communion avec Dieu. Qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a montré qu'il nous aimait. Il nous a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que par lui, nous ayons la vraie vie. En quoi consiste l'amour? dans notre amour pour Dieu. Non, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés d'abord. Voilà pourquoi il a envoyé son fils comme victime qu'il nous faut. C'est lui qui nous a aimés d'abord. Voilà pourquoi il a envoyé son fils comme une victime qui nous vaut sa faveur en expiant nos péchés. Mes chers amis, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Bien que personne n'a jamais vu Dieu, il vit en nous si nous nous aimons les uns les autres, car cet amour croît en nous jusqu'à son plein épanouissement. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en lui, en nous, grâce à l'Esprit qu'il nous a donné. Nous-mêmes, nous avons vu de nos yeux que le Père a vraiment envoyé son Fils pour être le Sauveur du monde. Nous l'avons contemplé et nous en rendons témoignage. Si quelqu'un reconnaît publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui. Et il demeure en communion avec Dieu. Pour nous, nous avons appris à connaître l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dans cette communion avec lui, l'amour atteint en nous son plein épanouissement, de sorte que nous pouvons envisager avec une confiante assurance la venue du jour du jugement. En effet, nous vivons dans ce monde comme le Christ y a vécu lui-même. Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour vrai chasse toute trace de crainte. En effet, la crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment. Celui qui vit dans la peur du jugement montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car il ne peut pas aimer son frère qui est là sous ses yeux s'il ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'était cette deuxième pétale de Dieu est amour, et on voit que l'apôtre Jean, par sa lettre qu'il nous envoie, insiste, il veut qu'on comprenne cet amour, qu'on puisse donner aussi les uns aux autres, et il va continuer avec cette dernière et troisième pétale qui nous parle de ce triomphe sur le monde pour celui qui croit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui croit au témoignage de Dieu. Et nous avons l'assurance de cette promesse que Dieu lui-même a faite, que nous avons la vie éternelle. Pas que nous aurons seulement, mais que nous avons la vie éternelle. Lisons cette troisième et dernière pétale sur Dieu est amour. Chapitre 5, verset 1. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de nouveau et Dieu est devenu son Père. Mais celui qui aime Dieu son Père, qui l'a fait naître de nouveau, aime aussi les enfants de Dieu, nés du même Père que lui. Comment pouvons-nous savoir si notre amour pour les autres enfants de Dieu est authentique? Lorsque nous aimons Dieu lui-même, c'est-à-dire lorsque nous mettons en pratique ses commandements. Car si on aime Dieu, on garde ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas accablants, car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Qui peut être vainqueur du monde? Qui peut être vainqueur du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, Jésus le Christ est venu parmi nous sous le double signe de l'eau et du sang. Il ne s'est pas seulement fait baptiser dans l'eau, il a aussi versé son sang. Et l'Esprit rend témoignage en nous que c'est vrai. Ainsi, il y a trois témoins. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois, d'un commun accord, attestent la même vérité, à savoir que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, devenu vrai homme. nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu est infiniment supérieur. Il s'agit du témoignage de Dieu lui-même affirmant que Jésus est son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu trouve ce témoignage de Dieu dans son cœur. Celui qui ne fait pas confiance en Dieu le traite de menteur, puisqu'il refuse délibérément d'accepter le propre témoignage de Dieu en faveur de son Fils. Et quel est le contenu de ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée dans la communion avec son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris tout cela pour que vous sachiez avec certitude que vous possédez la vie éternelle, vous tous qui croyez au Fils de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quelle qu'elle soit, nous soit déjà acquise. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il prie pour lui, et Dieu lui donnera la vie à condition qu'il ne s'agisse pas d'un péché entraînant à la mort spirituelle. Il est aussi possible de commettre le péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là, à ce péché-là que je pense en vous demandant d'intercéder pour les pécheurs. Toute transgression de la loi divine est un péché, certes, mais tout péché n'entraîne pas nécessairement à la mort spirituelle. Voilà cette fleur complète. On a eu les trois pétales de cette fleur qui parle du Dieu qui est amour. Et Jean l'a souligné de diverses manières, il a démontré les conséquences de l'amour de Dieu, le fait que Dieu soit amour. Vous vous rappelez, on avait vu, hein, c'est pas l'amour qui est Dieu, hein, faut pas inverser. Dieu est amour, il y a des conséquences dans nos vies du fait que Dieu soit amour. Et un bon exercice que l'on peut faire aussi, souvenez-vous de l'exercice précédent? Est-ce que je suis dans la lumière, hein? Eh bien là, on peut faire un exercice un peu similaire et se demander, est-ce que ce que je vis maintenant, là, la semaine prochaine ou cet après-midi, reflète l'amour de Dieu? Voilà, c'est un bon exercice. Est-ce que ça reflète l'amour de Dieu? Et si oui, eh bien, réjouissons-nous de cette communion que nous avons avec lui. Et sinon, eh bien, repentons-nous et courons dans ses bras d'amour. Parce que lui seul peut nous donner un amour que bien souvent nous ne pouvons pas donner. Comment est-ce que je peux aimer dans cette situation difficile? En puisant dans l'amour du Dieu infini. C'est le seul moyen. Il y a des conséquences que Dieu est amour et qu'il vit en nous. Puisqu'il vit en nous, eh bien cela se voit par l'amour que nous portons. Voyez, donc tout est lié, Jean nous a bien expliqué. Et cet amour de Dieu est si grand qu'il nous promet la vie éternelle et il nous donne une conclusion, les versets 18 à 21, où il dira trois fois une expression « nous savons ». Nous savons, nous savons. Enfin, lisons. Nous savons du reste qu'aucun enfant de Dieu né de nouveau ne vit dans le péché. Le Fils de Dieu l'a pris en charge et il le garde. Aussi le diable n'a-t-il aucune prise sur lui. Nous savons que nous appartenons à Dieu, nous faisons donc partie de sa famille, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a ouvert les yeux, pour que nous apprenions à connaître le Dieu véritable et pour que nous le connaissions de mieux en mieux. Ainsi, nous sommes en communion avec le vrai Dieu depuis que nous sommes en communion avec son Fils Jésus-Christ. Il est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes chers enfants, tenez-vous en garde contre toutes les idoles. Nous avons lu toute cette lettre de Jean, où il termine même par un avertissement, fuir les idoles. Pourquoi? Pourquoi cet avertissement? Mais il vient de nous expliquer durant toute sa lettre que Jésus est Dieu, c'est le seul Dieu, c'est par lui que nous pouvons être sauvés, c'est par lui que nous pouvons aimer, c'est lui qui en fait est le lien et qui nous permet de vivre cette communion. chaque fois que nous allons ailleurs que vers Christ, vers Dieu, nous allons vers une idole. Nous perdons cette communion. Nous la perdons, momentanément, évidemment. Dieu nous garde, nous la perdons. C'est pour ça qu'il dit, gardez-vous de toutes les idoles. Parce que la communion avec Dieu, qui est possible uniquement lorsque il n'y a pas ces idoles, mais elle est bonne. Elle est excellente, cette communion avec Dieu. Et j'espère que vous l'avez déjà vécu et que vous le vivrez encore. C'est tellement bon, c'est une communion douce, une communion parfaite, une communion pure, une communion remplie d'amour désintéressé, une communion d'écoute, une communion valorisante sans pour autant enorgueillir, une communion stimulante, une communion rassurante, réconfortante, une communion totalement sûre. Et je prie que chacun ici vive cette communion. Parce que quand vous vivez cette communion, vous avez toujours encore envie d'y revenir. Et c'est cela qui vous aidera aussi souvent face au péché, à résister, parce que vous savez que si vous péchez, vous perdez cette communion. Mais si vous péchez, nous avons un défenseur. Nous pouvons aller à la croix. Nous pouvons être purifiés. Et nous pouvons retrouver cette communion. Veux-tu vivre cette communion? Nous allons prier. Éternel notre Dieu, ta parole est puissante. Ta parole est efficace. Ta parole est profonde. Ta parole est compréhensible. Ta parole nous guide. Et ce matin, tu l'as vu, Seigneur. J'ai présenté ta parole. J'ai plaidé afin qu'on vienne vers toi, qu'on vive cette communion. Je te prie, Seigneur, d'agir dans les cœurs. C'est toi qui peux agir. C'est toi qui peux donner cette communion. C'est toi qui peux guider chacun ici présent. Et j'aimerais te prier, Seigneur, que chacun puisse réellement saisir cette communion avec toi. Et qu'ainsi, dans les moments difficiles, les moments de trouble, les moments d'épreuve, chacun trouve dans cette communion son réconfort, sa paix, son renouvellement, cette grâce qui nous dépasse, qu'on ne mérite pas, mais que tu nous donnes. Seigneur, nous te prions que cette épître de Jean nous devienne toujours plus proche, qu'elle puisse nous devenir proche personnellement à chacun, et qu'elle puisse nous être proche en tant que communauté aussi. Seigneur, nous te prions d'agir dans ta grâce, dans ta puissance et pour notre joie. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.